Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 273e numéro de notre podcast, un numéro durant lequel nous allons vous proposer entre autres quelques reviews de nos lectures récentes, principalement en VF avec une petite pointe galactique de VO. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 273e numéro de Comic Stories. Et un numéro en tandem une fois de plus avec Anthony.
Bonjour à tous.
Anthony, première chose que j'ai envie de faire, c'est prendre de tes nouvelles vis-à-vis de ta transition potentielle en VO par rapport à la dernière fois.
Alors pour l'instant rien n'est fait, puisque j'attendais quand même de voir ce qu'allait nous faire Panini. Bon, c'est vrai qu'en me confrontant un peu au coût de la VO, ça reste. Bon, on va y revenir, mais ça reste assez onéreux. Par contre. Je pense que l'achat single me correspond malheureusement pas. Par contre, l'achat TPB peut-être beaucoup plus et je vais y réfléchir plus sérieusement une fois que voilà 2-3 mois de Legacy seront passés et voir comment ils vont gérer ça sur la distance. Mais pour l'instant, j'ai pas basculé encore.
Ok. Et ben on va en parler de Panini du coup, puisque alors on est aujourd'hui, on enregistre, il est le 13 juillet, nous sommes le 13 juillet au soir. Ça fait donc 10 jours que sont sortis les nouveaux mensuels de Panini. Bon, je n'en ai encore vu aucun, hein, malgré le nombre de points de vente potentiels dans lesquels je suis passé en 10 jours. Et tu sais que j'en ai fait des kiosques, des supermarchés, quelques librairies. Le seul endroit où je ne suis pas encore allé, c'est la librairie spécialisée BD où je vais d'habitude. Donc on verra si eux les ont. Mais en tout cas, pour le moment, dans tous les endroits dans lesquels je suis passé et où d'habitude il y avait les kiosques, je n'en ai vu aucun. Donc je ne sais même pas à quoi ils ressemblent concrètement. Bah je compte sur toi.
Ouais, bah moi je pareil, les rares supermarchés dans lesquels je suis allé, j'en ai pas trouvé. Par contre, effectivement, là dans la boutique spécialisée, alors bande dessinée généralisée, pas focalisée que sur du comics, là ils y sont et ils sont pour être tout à fait précis, ils sont sur l'étalage kiosque.
D'accord. Ah, parce qu'ils avaient déjà des kiosques avant.
Ils avaient des kiosques, ils avaient de kiosques librairies, enfin, ils avaient tout le catalogue publié en cours chez Panini, Urban, Delco, okay. Tous les éditeurs. Et donc là, tu as les mensuels, tu as toujours les mensuels du mois de juin et tu as ceux de juin. Du coup, les parutions de juillet qui sont apposées à côté de celles de juin. Donc, okay, selon eux, on reste sur du kiosque.
D'accord. Donc, moi, la librairie qui me reste à faire, ma librairie BD, c'est vraiment là où j'achète des titres librairie et des mangas et du franco-belge. Donc, il n'y a vraiment aucun kiosque qui était chez eux avant. Et bon, on verra. Mais en tout cas, pour le moment, je n'en ai vu aucun. Donc, est-ce que c'est beau? Est-ce que ça vaut le coup? Tout ça. Vas-y, dis-nous-en un petit peu.
Alors, donc, on va faire ça, on va essayer de structurer un peu. Je vais revenir avant tout sur la maquette, petit peu la forme. Et ensuite, on va revenir sur le fond qui sera dans la continuité, puisqu'on, comme on va le voir, il n'y a aucune rupture avec ce qu'il y avait avant. Donc, sur le. Comment se présentent ces kiosques. Enfin, ces kiosques. Ces mensuels Legacy. Donc, c'est le même format d'un point de vue hauteur, largeur que ce qu'on avait avant. Sauf qu'ils sont légèrement plus fins puisque la pagination diminue un petit peu, forcément. Donc, ça prendra pas tant de place que ça sur les étagères, ce à quoi on était un petit peu. Enfin, on avait des doutes dans le dernier podcast.
Vous avez promu du papier qualité, donc je me disais que c'est plus épais.
Donc là, c'est pas plus épais. Effectivement, pour mettre de côté cette question du papier tout de suite, il est de meilleure qualité. Okay. Ça, c'est clair. Il est de meilleure qualité. On est sur un... Ils ont uniformisé la tranche, c'est-à-dire que comme Urban, qui ont choisi, eux, un code couleur noir et blanc, Panini a choisi un code couleur rouge et blanc. C'est-à-dire que la tranche est entièrement rouge et les différents caractères, donc à savoir le nom donc du kiosque, enfin le nom de la gamme, pardon, Marvel Legacy et Spider-Man ou Avengers et tout, avec le numéro en haut du numéro. On n'a plus maintenant de titre. Avant, on avait souvent, Spider-Man avec un titre. Aujourd'hui, ça a disparu. On a Marvel Legacy Spider-Man 1, par exemple.
Okay.
Concernant les couvertures, alors bon, c'est celle que malheureusement il nous avait présentée lors de l'annonce. Alors c'est très très moche. Je l'avais d'ailleurs vu en flânant un peu sur la page Facebook que le contre-argument c'était de dire le kiosque Spider-Man, on a la tête de Spider-Man en gros, oui, c'est sûr. Maintenant, une cover d'Alex Ross avec Spider-Man dessus, c'est bien, et ça reste du Spider-Man. Donc, quand on achète un kiosque Spider-Man avec du Alex Ross dessus, on sait ce qu'on achète.
Bah, surtout en librairie, ça en jette un peu.
Ah, c'est pas beau du tout. C'est vraiment pas beau.
À différence de la couverture qu'ils ont diffusée avec de Thanos du Marvel Epix, bah voilà, elle a de la gueule. Oui. Par contre, voilà. Le reste,
c'est ça. C'est ça. Surtout que cet argument, enfin ce discours on a le portrait du personnage en couverture, donc on associe directement le titre. Enfin, il y a un jeu qui se fait immédiat de reconnaissance lorsqu'on va acheter le kiosque. Bah, c'est pas vraiment le cas puisque sur le nom Avengers, on a la tête d'Iron Man.
Exactement. Et sur le nom X-Men,
on a la tête de Magneto.
Bon.
Bon, d'accord, j'ai pas trop compris. Alors, concernant maintenant comment c'est agencé, donc on a effectivement un rabat en première et quatrième de couverture. Donc, sur la première de couverture, on va retrouver sur la partie extérieure du rabat une présentation très sommaire de quelques personnages qui vont apparaître dans le numéro. Donc, à savoir, par exemple, dans l'Avengers, on va avoir Viv, Hercule, Miles Morales et Riri Williams. Alors, pourquoi eux et pourquoi pas les autres, j'en sais rien. Et sur le Spider-Man, on a donc forcément Peter Parker, Johnny Storm parce qu'il est présent dans le Amazing Spider-Man, Miles Morales, donc ça fait le doublon avec le kiosque Avengers, et Ben Reilly pour la série de Peter David. Voilà. Ensuite, quand on ouvre le rabat, on a, alors malheureusement, ça va être bémol. On a un retour sur les Avengers. Alors, en gros, c'est une description Wikipédia. Bon. Oui, maintenant, comme on va le voir, vu que c'est dans la stricte continuité de ce qu'il y avait avant, je pense qu'il aurait fallu faire un gros retour, peut-être beaucoup plus précis sur ce qui s'est passé depuis Secret Wars. Ça aurait été beaucoup mieux que de nous sortir la première équipe, Ant-Man, Thor, Hulk, le retour de Captain. Enfin, j'ai l'impression que c'est des généralités que plus ou moins tout le monde a en tête. À l'issue de ça, on a donc le petit édito d'intro. Et là, on tourne la page et on bascule sur un nouveau mode de publication intra-kiosque, puisque maintenant, en fait, alors c'est publié de la manière suivante. En gros, je prends l'exemple du kiosque Avengers, mais c'est un protocole qui va s'appliquer, j'ai l'impression, sur l'ensemble de la gamme Legacy. Donc, imaginons, la partie Avengers va regrouper les numéros 672, 673 et Champions 13. L'ensemble de ces trois numéros font partie de du petit crossover introductif à Legacy qui s'appelle Worlds Collide. Et donc, ces numéros sont chapitrés uniquement par série. C'est-à-dire que s'il y a deux numéros d'Avengers à la suite, les deux numéros d'Avengers ne sont pas chapitrés. Par contre, au sein de ce même petit agencement, eh ben, le numéro de Champions, lui, est chapitré par rapport aux deux numéros d'Avengers. Donc ça, c'est cool. Pareil sur le kiosque Spider-Man. On va commencer par deux numéros de la série Amazing Spider-Man, les numéros 789-790. Ces deux numéros ne sont pas chapitrés l'un par rapport à l'autre. Par contre, ils vont être chapitrés par rapport au numéro suivant, qui est celui de Miles Morales, et donc c'est le Spectacular Spider-Man qui est le numéro 297. Donc j'ai l'impression qu'ils adoptent, et là encore on s'en rapproche un peu plus du mode TPB, c'est-à-dire que dans un TPB des fois c'est pas chapitré et on a l'histoire complète d'un coup. Donc c'est pas ce qu'on voulait, maintenant c'est beaucoup plus cohérent que ce qu'on avait avant, puisque je me souviens notamment de l'exemple que tu avais donné sur un numéro de X-Men, notamment le premier, où on se retrouvait avec du gold, du blue, du gold, pas séparé, et finalement on savait plus ce qu'on lisait. Donc là c'est plus le cas, on sait précisément ce qu'on lit et dans quoi on se trouve. Donc ça c'est bien. Contre-exemple immédiat, Marvel Epics, où le numéro de I Am Groot n'est pas séparé de celui de Thanos Wins. Donc, je passe du numéro de Thanos directement à celui de I Am Groot.
Donc, dans un magazine qui est censé être plus soigné parce que plus cher en plus.
Exactement. Donc, autant les numéros Spider-Man Avengers, j'ai de ce côté-là rien à dire. Autant le Marvel Epic, ça y est, on retombe déjà dans les travers. Puisque on a deux numéros de deux séries différentes qui ne sont pas séparés par... alors, c'est pas les couvertures. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un peu comme Urban. Ils mettent la couverture en petit. Ils vont mettre les crédits et un petit récap, là aussi, assez sommaire de ce qu'on a eu avant.
D'accord.
Et donc, c'est déjà plus le cas dans le Marvel Epics. Donc, bémol. Et sur la quatrième de couverture, on a donc... à la fin, on a l'édito de fin forcément. On a la checklist sur la quatrième et sur la partie intérieure du rabat. Checklist complète, donc qui n'est pas répartie un peu aléatoirement dans le kiosque, donc ça c'est cool. Et sur la partie extérieure du rabat, on a la preview du mensuel suivant, qui arrive le mois prochain. Et là, par contre, c'est cool, puisqu'on a des conseils de rédaction autour de ce qu'on a lu. Donc, par exemple, sur le kiosque, sur le numéro Spider-Man, on va avoir Brand New Day, qui était les premiers écrits de Dan Slott sur Spider-Man, et on a Superior Spider-Man. Donc voilà, c'est des petits conseils de lecture pour orienter celui qui découvre et qui voudrait essayer d'explorer un peu autour de ce qu'il vient de lire. Donc ça, c'est bien. Donc franchement, au niveau de la forme, bon, c'est plus cher. J'ai l'impression que c'est quand même plus soigné, donc au moins on s'y retrouve un peu. C'est plus uniforme puisqu'on a plus ce jeu de couleurs. Alors le contre-argument, enfin le contre-coup, c'est de dire bon bah je peux plus identifier d'un coup d'œil ce que j'ai sur mon étagère. Maintenant Urban le fait très bien, donc je vois pas pourquoi on irait hurler derrière Panini pour ça. Donc moi d'un point de vue forme, c'est plus cher, c'est de meilleure qualité. J'aurais tendance à dire que la pilule passe.
Ok.
Après, concernant le fond, là, honnêtement, pareil, je peux pas dire que c'est un renouveau puisque ça l'est clairement pas, puisque ça prend la suite tout de suite. Enfin, ça prend la suite immédiate, pardon. Alors, on a ce qui avait été un peu décrié il y a maintenant 7 mois quand c'était sorti en VO, puisqu'on a eu la renumérotation, alors soi-disant originale, puisqu'on passe au Avengers 672, 673, par exemple, et au Amazing Spider-Man 789. Alors, faut surtout pas avoir peur de ces gros chiffres, même si ça n'a pas vraiment de sens, puisque c'est la continuité immédiate de tous les arcs qu'on avait avant. Donc, la partie Avengers et Champions... Donc c'est une invasion du maître de l'évolution. C'est assez superflu, c'est rentre dedans, c'est pas très réfléchi. C'est assez beau par contre, puisque on a Rezu 16 au début qui est somptueux. Le type est vraiment vraiment très bon. Ensuite on a du Ramos forcément sur Champions et on finit sur je vais checker ça dans les crédits. On finit sur du encore Rezu 16 mais mis par un autre encreur, donc c'est tout de suite moins joli. C'est pas terrible, franchement c'est pas terrible, ça se lit très vite, ça va pas au fond des choses puisqu'on a cet affrontement moral et éthique entre les Champions et les Avengers qui s'étaient séparés à l'issue de Civil War 2. Donc là aussi malheureusement Panini revient pas assez dessus dans son édito puisque il nous dit juste que les deux équipes sont séparées, on sait pas pourquoi, donc c'est dommage. Ensuite on continue avec les travaux de Bendis sur Iron Man que moi je trouve vraiment pas mal contrairement à tout ce qui se dit puisque le bonhomme maîtrise quand même son sujet. Infamous est toujours autant mystérieux, je suis incapable de dire vraiment sa véritable motivation puisque je pense que Fatalis joue plus que la simple rédemption et l'envie de faire le bien, ça m'étonnerait. Riri Williams, c'est ce personnage un petit peu frais qui a ce côté énervant d'une jeunesse ultra connectée, mais qui est malheureusement ou pas d'ailleurs, le reflet parfait de ce qui se passe aujourd'hui. Donc moi j'aime bien. Au dessin c'est super beau parce qu'on a du Caselli et du Alex Maliv. Donc Caselli va s'occuper de la partie Riri Williams et donc Maliv de la partie Infamous, comme c'était le cas avant. Donc kiosque relativement moyen. Qui perd la série USA Avengers, Uncanny Avengers, qui de toute manière était pas terrible puisqu'elle avait été reprise par Jim Zub et c'était pas bon. Donc c'est plus cher, c'est plus joli et c'est c'est plus dense. On va dire le kiosque s'éparpille moins. On a vraiment la partie Avengers Mark Waid et la partie Iron Man par Bendis. Honnêtement ça suit si on suivait avant. Le kiosque Spider-Man lui est assez bon puisqu'on retrouve deux épisodes de Dan Slott, alors qui range les jouets puisqu'à l'issue de Secret Empire le personnage perdait tout, donc il est de nouveau sans emploi, mais forcément vu que c'est Dan Slott et qu'il est là depuis longtemps et qu'il a toute la continuité en main, eh ben ça passe très bien puisqu'il arrive à nous faire ce retour au statu quo original sans oublier ce qui a été fait avant, donc forcément c'est beaucoup plus fluide et un retour drastique aux bases. Donc moi j'aime toujours ce que fait Dan Slott, c'est toujours illustré par Stuart Timonen et c'est somptueux. On a une inversion de la perception de Peter Parker Spider-Man, puisqu'aujourd'hui Peter Parker est une figure publique et qu'elle est décriée de par son son shutdown de son entreprise lors de Secret Empire, alors que la figure de Spider-Man, elle, qui est anonyme forcément, passe pour le sauveur de la ville. Et donc voilà, il y a cette inversion qui est assez alors pas forcément très fine, mais qui rafraîchit un peu le titre. On a la relation avec Mockingbird qui, ma foi, est plutôt bien traité. On a aussi, forcément, vu que Peter Parker est fauché, eh ben, il doit vendre le Baxter Building, puisque c'était son QG, puisqu'il l'avait racheté à l'issue de Secret Wars pour maintenir l'héritage des FF. Ce qui fait d'ailleurs le reflet, puisqu'on a la même relation avec Johnny Storm lors du début de son Spider-Man et cet épisode-là. Donc ça aussi, c'est super cool. On a le retour de Clash, qui était un personnage qu'il avait remis au goût du jour, enfin que Christos Gage avait remis au goût du jour lors de la mini Amazing Spider-Man Civil War 2, qui est un personnage aux motivations plus qu'intéressantes. Donc non, Amazing Spider-Man by Dan Slott, c'est toujours excellent et c'est très très beau. Spectacular Spider-Man, c'était une série que je lisais pas, mais le fait est que cet épisode est beaucoup moins détendu, voire ridicule que ce qu'on avait avant. On a quelque chose de plus concentré, de presque plus dramatique autour du de la figure de Spider-Man. Donc la série retrouve un petit peu retrouve de l'intérêt. Et enfin Miles Morales, puisque je lis pas la série Ben Reilly, Miles Morales, moi j'ai, comme tous les mois, c'est pas brillant, mais c'est ce que, dans la veine de ce que fait Bendis depuis quelques temps maintenant, donc ça se lit toujours avec un plaisir assumé. C'est assez joli graphiquement. On a le retour d'un personnage de l'entourage de Miles Morales qui est surprenant, puisqu'on, c'est vrai qu'avec tout le schmilblick de Secret Wars, on savait pas tellement ce qu'il en était. Donc là, c'est adressé. Donc non, un kiosque là pour le coup Spider-Man qui est très agréable à partir du moment où on adhère à l'écriture de Dan Slott et de Bendis. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Legacy. Autre point, je vais terminer sur ça. Panini joue franc jeu puisque dans les éditos de fin, on sait que ça va durer 7 mois. Voilà, la période Legacy va durer 7 mois. Alors est-ce que ça veut dire que cette formule kiosque est la dernière, enfin kiosque mensuel est la dernière qu'on va vivre? Est-ce que d'ici 7 mois, ils vont encore repenser la gamme? Je saurais pas dire. Je ne préfère pas m'avancer puisque on n'est pas à l'abri d'une annonce surprise. Mais voilà, on sait que Legacy, ça va durer 7 mois. Alors, renumérotation, chamboulement dans toute la gamme, on verra à ce moment-là.
Bon, ils ont déjà prévu le coup avec les dos des livres Marvel Legacy, Spider-Man 1. Comme ça, ils vont juste après enlever Marvel Legacy et puis voilà.
Oui, alors est-ce que ça amènera encore un nouvel numéro 1?
Bon, bien sûr.
Ouais. je peux aussi dire un mot sur les stickers.
Ah, la fameuse collection.
Alors, bizarrement, c'est assez bien fait. Alors, c'est gratos, donc c'est compris dans le... Donc, si vous voulez tous les stickers, forcément, faut acheter tous les kiosques. Mais si vous achetez que ce qui vous intéresse, vous avez quand même le livret de stickers. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est les stickers, ce sont des couvertures emblématiques associées à des grandes histoires par décennie. C'est-à-dire que le feuillet, on va retrouver les grandes histoires des années, donc forcément 60, 70, jusqu'à 2010. Et donc, même si on n'a pas les stickers des couvertures... des couvertures en couleur, on les a quand même, donc en... Alors, pas en noir et blanc, mais dans une couleur unie. Donc, chaque décennie est associée à une couleur. Et ça permet quand même d'avoir un petit, une petite frise chronologique sur les grandes sagas Marvel. Donc, c'est quand même intéressant de l'avoir, puisque ça permet, voilà, d'avoir un récap très général sur les grandes étapes de cet univers Marvel. Donc, de là à acheter tous les kiosques pour avoir les stickers, certainement pas. Maintenant, une fois qu'on a le livret et qu'on achète que ce qui nous intéresse, bah, on a, voilà. On a toute une frise gratuitement, donc c'est moi du moment que c'est pas à payer en plus dans le coût du kiosque, je trouve ça bien.
Oui, ça fait passer la pilule les premiers mois. On a un petit truc gratuit en plus pendant 3 mois.
Voilà. Puis moi, je m'attendais vraiment à une succession de stickers sans contexte ou sans contextualisation. Là, c'est pas le cas. Donc c'est une bonne. Disons voilà, ça, comme tu dis, ça fait passer la pilule et au moins le petit livret, on va dire, sert à quelque chose, à une utilité.
Ok. Bien. Oui, tu t'es parlé de Bendis et de merde.
Iron Man.
Et de Slot.
Oui.
Bah, qui sont encore là sur quelques mois pour sur leur titre et puis après.
Oui, ça va. Bah, Bendis, il va même quitter la maison.
Marvel et puis Slot reprendra en main d'autres destinées.
Ouais.
Et vous avez encore, ouais, à peu près. Bah oui, ils ont dit que c'était pour 7 mois Legacy. Je pense que à la fin du numéro 7 du coup de Spider-Man Legacy, vous devriez arriver sur le dernier numéro de Slot qui est le 801.
Bah, je pense que janvier 2019. On devrait avoir un retour, enfin, du moins une remise à niveau des oui. sorties mensuelles Panini.
Alors lequel... j'ai très hâte que vous arriviez au numéro Spider-Man, on va dire numéro 5 ou numéro 6, parce que ça va être le fameux numéro 800.
Ouais.
Et le numéro 800 fait à lui seul 80 pages.
Exact.
Alors là, j'ai hâte de voir. J'ai exact. Hâte de voir la gueule du magazine.
Pas moi.
Est-ce qu'ils vont oser le saucissonner pour garder les 112 pages? Est-ce qu'ils ne vont mettre que ça au menu et squeezer les autres séries pendant un mois? Là, je suis curieux.
Parce que là, dans le numéro, il y a quoi? Il y a Amazing Spider-Man, Miles Morales, Spectacular et mon Bane Rally. Je sais même pas si ça continue d'être publié.
Alors, en tout cas, Spectacular et le Spider-Man de Bendis. Peut-être le Spider-Man de Bendis sera terminé à ce moment-là. Je suis pas sûr, mais en tout cas, le Spectacular continue.
Le Spectacular continue ou toujours?
Il allait au-delà du 300, hein, puisque donc non, je pense que non, mais en tout cas, ça va être drôle. Je pense que ça va être marrant.
Et autre point, dès le mois d'août, on va retrouver des couvertures originales, on va dire. Voilà.
D'accord. D'ailleurs, j'ai une nouvelle qui va t'attrister. Hein. Malheureusement, il existait bien une couverture de Thanos version grosse tête. Quoi.
Ah bon ?
Eh oui, le numéro 13 de la série Thanos, c'était la grosse tête de Thanos sur fond gris.
Heureusement.
C'était à l'époque de Legacy, c'était une vague de variantes qui s'appelait Legacy Headshot Variant. Même Thanos a vu droit à la sienne, alors elle est gratinée celle-ci.
Là, on a une belle couverture de Raphaël Albuquerque.
Oui, la variante.
Elle est sobre, elle est très sympa.
Ah bah en librairie, ça donne. Là, en librairie.
Ah, en librairie, ça t'attire à l'œil, puis forcément, ça résonne avec le carton d'Infinity War. Donc, ça te. Bon, honnêtement, t'achètes ce kiosque-là, tu comprends rien. Si t'es seulement motivé par la couverture, même si je l'ai pas encore lu, donc je sais pas si bon les gardiens à mon avis ça va être difficile de prendre en main parce que Dugan était assez
le run on est en plein milieu d'une saga quoi.
Déjà puis il avait vraiment une approche multi-intrigue avec chaque personnage a plus ou moins une backstory, on avançait vers une direction qui était encore floue, donc ça va être dur de prendre en main. Le Thanos c'est le début de la
série de Donny Cates.
Et donc on peut aussi dire le début de l'arrivée de Donny Cates chez Marvel puisqu'il est aujourd'hui un petit peu il est sur plusieurs séries.
Oui.
Et donc d'après les retours que j'ai, c'est sur Thanos c'est très bon et tout ce qu'il fait chez Marvel est très bon. Donc est-ce qu'on tiendrait pas là un petit peu le Rick Remender à l'époque quand il avait un petit peu dynamité Marvel. On va voir. Je suis assez impatient.
Tu vas avoir un premier élément de réponse puisque
j'ai mon épisode de Thanos qui m'attend.
Puisque je comptais justement parler
vas-y.
De Thanos Wins, le TPB, justement, qui est sorti il y a 2 semaines maintenant en VO, qui collecte les épisodes 13 à 18 de Thanos, plus l'annual numéro 1, donc c'est-à-dire l'intégralité du passage de ce cher Donny Cates sur la série. Et effectivement, c'est une dinguerie, c'est dingue. C'est à la fois du fun pur, mais teinté de what the fuck par moment, parce que franchement, il y a des concepts hyper barrés, mais qui fonctionnent tous.
J'aime quand tu dis ça.
Voilà, c'est des trucs, c'est taré, mais vraiment, et ça marche. Donc voilà, faut avoir quand même un certain talent pour faire ça, et c'est la preuve que Donny Cates en a. C'est même limite jouissif par moment. Il y a une intro, une ouverture d'épisode où Thanos est confronté à des Avengers à un moment ou à un autre de son histoire. Et alors cette succession, je crois que c'est juste 2 ou 3 doubles pages et encore. Mais c'est jouissif, vraiment.
Comme tu me le décris, j'y vois vraiment du Rick Remender en fait.
Il y a un système de narration, un style de narration de Donny Cates dans ses cases narratives, donc qui ne sont pas des bulles de pensée, hein, qui sont des cases de narration faites par un narrateur en plus, pour le coup, où il y a un style que je ne saurais situer temporellement. C'est un truc complètement, enfin c'est un style de narration un peu hors du temps. C'est à la fois un tout petit poil désuet, mais le côté charmant du désuet. et moderne en même temps, hyper moderne. Donc c'est assez bizarre, mais ça fonctionne. Mais surtout l'histoire, enfin ouais, Thanos, pour la faire courte et sans trop spoiler, durant cet arc de Thanos Wins, le Thanos que l'on connaît va être confronté à une version de lui-même, mais dans très longtemps, dans le futur.
Voilà. Une sorte de futur imperfect de Thanos, quoi.
On peut dire ça. On peut dire ça. Voilà, on arrive à un moment de l'histoire de l'univers où il reste plus grand-chose à part Thanos. Et c'est pas pour rien si ce Thanos actuel se trouve projeté à cette époque. Vous verrez par quel moyen, pourquoi, par qui, etc. Pas pour rien si le Thanos actuel arrive à ce moment-là de l'histoire avec un grand H. Mm-hmm. Et il va croiser des personnages. Le fameux Cosmic Ghost Rider.
Je me suis fait spoiler son identité, putain.
Ah, ça c'est con. Ça c'est con parce que moi je me le suis pas fait spoiler. Et ouais, tu pousses un petit cri de surprise quand
j'arrête d'aller sur les sites spécialisés ouais. Comics parce que
oui.
J'adore suivre ce genre de site, mais malheureusement, bon, ils ont pas le choix. Hein, il faut publier des news.
Bien sûr. Bah surtout qu'en plus, c'est Cosmic Ghost Rider son nom.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est ça. Oui, surtout qu'en plus ce personnage a tellement fonctionné dans ces quelques épisodes de Thanos qu'il a droit à sa mini-série en 5 épisodes qui vient de commencer. Alors j'ai le single, je l'ai pas encore lu, je ne sais pas ce que ça vaut. Et donc du coup, j'imagine qu'au moment où a été annoncée cette mini-série, bah, son identité a été dévoilée sur les sites spécialisés.
Ah bah oui, oui.
Mais moi, j'ai réussi à passer outre le spoil et voilà, il y a une double page. Enfin, il y a un moment où ça fait un petit moment qu'on le croise. Enfin, c'est pas tout de suite qu'on connaît son identité. Ça dure sur 2-3 épisodes. Et Thanos, à un moment, on lui dit mais je sais même pas qui t'es. Et le mec lui dit ah bah désolé, je suis complètement impoli. Et là, il lui tend la main et il se présente. Et au moment où il dit son nom, c'est énorme. C'est complètement taré, mais en même temps, c'est une forme de logique.
La mini qui va le suivre, lui, c'est écrit par Donny Cates.
Oui, c'est Donny Cates.
D'accord, ok.
C'est sa création. Et il fait une mini-série qui raconte, j'imagine, soit les origines de ce personnage, encore qu'on en a une partie dans la série Thanos, ou alors une histoire peut-être qui fait le pont entre comment il est devenu ce fameux Cosmic Ghost Rider et ce qui l'amène jusqu'à la rencontre avec Thanos, pourquoi il se trouve à débarquer là à ce moment-là. Je ne sais pas, je n'ai pas commencé et c'est dans le très très haut de ma pile de lecture. Donc en tout cas ouais c'est un petit coup de cœur quoi, ces 6 épisodes là c'est d'une fraîcheur folle et on croise un autre personnage à un moment très très connu de l'univers cosmique mais dans une version pareil un peu tarée du futur enfin, c'est vraiment à lire, je reste volontairement très cryptique mais si vous voulez suivre en VF vous l'avez dans Marvel Epix et c'est tellement bon que vous pouvez acheter Marvel Epix rien que pour lire Thanos de Donny
Cates. Le Marvel Epix je l'ai pas encore lu mais c'est une valeur sûre parce qu'il y a il y a beaucoup d'épisodes de Duggan qui est l'un des très bons actuellement puisqu'il a bien bossé sur Deadpool, il a sublimé les Uncanny Avengers et là il...
Moi, c'est Gardien, je les aime. Ben, voilà.
Ouais.
Je suis en TP, pareil, hein, donc je vais prendre le prochain TP que je vais lire. Ben, c'est à peu près ce qui arrive en ce moment dans Marvel Epics, donc je suis à peu près au niveau de la VF pour le coup, et je suis très en avance sur Thanos. Mais non, c'est très bon, le Marvel Epics, allez-y, quoi, vous avez deux pépites.
Il me semble qu'il avait écrit une très très bonne mini-série Secret Wars, déjà à l'époque, qui mettait en scène un Thanos vieux avec des gardiens et tout. Il me semble que c'était lui, avec au dessin Dustin Weaver.
Duggan?
Duggan. Je vais vérifier ça tout de suite, je reviens.
C'est possible. En tout cas, voilà, ce Thanos, allez-y, foncez clairement. Alors, vous avez soit le TP chez Marvel qui coûte à 19,99$ pour 6 épisodes plus l'annual. Un annual qui est plutôt un condensé de plein de petites histoires, mais quand même toutes plus ou moins liées et qui font un peu tout le pont avec ce qui s'était passé dans la série, dans les épisodes précédents par Donny Cates. Donc, qui vaut le coup aussi d'être lu. Voilà.
Mathieu?
Oui.
Oui, donc c'était bien lui. Hein. C'était bien lui, il était déjà là pour la mini Secret Wars, Les Gardiens de la Galaxie, qui était vraiment une petite perle.
Ok. Très bien. Voilà pour la partie cosmique. En tout cas, moi niveau VO, j'ai lu les derniers trucs, les derniers gros événements, je les ai lus. Le fameux Batman 50 avec le mariage, Batman Catwoman, je l'ai lu, je n'en parlerai pas aujourd'hui. J'ai terminé la série Man of Steel de Bendis, je n'en parlerai pas aujourd'hui non plus. Qu'est-ce que j'ai lu de récemment, enfin parmi les gros événements, il y a quand même pas mal de trucs là en ce moment. Le Catwoman numéro 1. Ouais,
D'accord.
Le Catwoman numéro 1, je l'ai aussi de Joel Jones. J'en parlerai pas non plus pour pas spoiler, mais ça mérite, ça peut être lu. Voilà, vous pouvez y aller.
Juste pas dégueulasse. Un petit aparté pour les gens, tu commandes en boutique ou sur Internet les singles?
Internet, ça... Arconia.
D'accord. Ok, comme ça les gens...
Arconia.com, qui est d'une souplesse extrême vis-à-vis des précommandes. J'en avais déjà parlé plusieurs fois, hein. Vous avez vos précommandes, et puis au moment où les titres sont disponibles, vous êtes prévenu par mail. Vous validez ce que vous souhaitez parmi vos sorties. Donc ouais. Si vous avez précommandé 2 mois auparavant un truc, et puis que finalement, après avoir lu 2 numéros, bah, vous dites non, j'arrête la série, bah, vous ne validez pas la précommande de ce numéro, vous le virez de votre panier, et vous validez tout le reste. Donc ça, c'est quand même assez, assez confortable par ouais. rapport à la plupart des autres systèmes.
Comme ça, les auditeurs ont
exactement, une adresse. Exactement. Et les frais de port sont fixes à 5,99 €. Quelqu'un, donc à vous de voir si vous recevez vos titres toutes les semaines, une fois par mois, peu importe. Et pour des titres qui sortent le mercredi, ils arrivent en stock le mardi. Si vous validez bien vos précommandes correctement le mardi soir en rentrant du boulot, par exemple, eh bien vous êtes comme moi, vous rentrez chez vous le vendredi avec vos comics sous le bras.
Donc dans la semaine, réception comics mardi, envoi mercredi, enfin réception chez Arconia mardi, envoi mercredi.
Je valide mon panier le mardi soir, le mercredi c'est envoyé et le vendredi soir en rentrant chez moi, je passe à mon relais Chronopost et c'est arrivé.
Pas mal.
Donc voilà, on a un rythme quand même, voilà, 48 heures après la sortie, j'ai les titres chez moi, donc c'est quand même hyper performant, ils ont vraiment de très bons services et le service DPD Chronopost International fonctionne super bien aussi, il faut le reconnaître.
Tu passes par DPD,
voilà. Okay. Ouais, okay. DPD, ouais. Tous ces singles-là, voilà. Je vais en parler, mais je le ferai pas parce que c'est beaucoup trop frais par rapport à la sortie VO. Et beaucoup d'entre vous sont des lecteurs VF. Si vous voulez mon avis sur ces titres, bah, c'est bien simple. Toutes mes lectures, tous mes singles, tout ce que je lis, je le mets sur Instagram avec un petit avis. Donc, si vous vraiment voulez savoir ce que j'en pense, bah, vous allez voir sur Instagram. C'est Nigmato pour mon profil. Nigma comme Edouard Nigma et T-O à la fin. Voilà, vous m'en trouvez et puis vous lisez un petit peu mes avis si vous voulez les suivre. Je parlerai de ces numéros, mais plus tard dans le podcast. Je vais laisser un petit peu de temps sortir. Mais en tout cas, là, on a une super belle période en VO. Voilà, Spider-Man de Nick Spencer qui vient de démarrer. Qu'est-ce qu'on a encore? Death of Inhumans de Donny Cates.
Le Spider-Man de Spencer me fait pas rêver du tout.
Alors, j'ai le numéro 1, il est arrivé ce soir, du coup, donc je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas quoi en penser. Merci Arconia, d'ailleurs, vous avez toujours des petits bonus comme ça. J'ai commandé le numéro 1 de Spider-Man, du coup, qu'est-ce qu'ils m'ont offert? Un petit fascicule gratuit qui est le Behind the Scene, donc c'est le même numéro, le numéro 1 de Spider-Man, mais juste en crayonné, sans parole, sans rien, qui est un petit numéro, qui est un numéro gratuit, qui était fait le lancement par Marvel, donc dans les comic shops il y avait des petites fêtes pour les lancements, etc. Et les clients qui achetaient le Spider-Man 1 repartaient aussi avec ce numéro juste crayonné, sans dialogue, sans rien. Donc quand même des dessins de merde.
Ryan Otley,
voilà, Invisible. Donc ça a de la gueule d'avoir ça, quoi. Donc voilà, le nouveau Captain America vient de démarrer, t'as une AC Coates.
Ça fait bien, ça fait envie, ça.
Beaucoup. Bah, je l'ai aussi, je ne l'ai pas encore lu. On est en pleine Flash War en VO, c'est plutôt pas mauvais cette Flash War. Quand ça va sortir en VF, guettez-la, parce qu'on a du vrai, une vraie confrontation Barry Allen, Wally West autour de la famille de Wally West, puisqu'on on sait que Wally est revenu, mais qu'en est-il de sa famille, qu'il a lui-même oublié, ses deux enfants, etc. Tout ça ressurgit, et c'est le sujet central d'un conflit entre Barry et Wally, avec du reverse flash et du zoom qui viennent se mêler à tout ça. C'est assez fort. Et puis Donny Cates qui continue, hein, avec son Cosmic Silver Surfer, et puis Death of the Inhumans qui vient de démarrer avec le numéro 1 aussi. J'ai craqué sur son nom. Voilà. Donc c'est du Donny Cates, je l'ai pris par principe.
On verra. Je comprends.
Voilà pour la VO, et puis ça, c'est pas mal de choses du côté indé aussi. Mais je vais laisser un peu de temps passer avant d'en parler en podcast.
Bien.
Et en VF, du coup, pour y revenir, tu avais d'autres choses dont tu voulais nous parler?
Oui, je crois. Oui. Il y a un truc monstrueux qui est sorti. Truc rock'n'roll, ou rock tout court d'ailleurs. C'est Batman Metal par Scott Snyder et une chier d'artistes.
Tu m'étonnes.
Principalement Greg Capullo.
Oui, en grande partie, ouais. Sur la série principale.
Sur la série principale. Alors, on a donc là, à l'heure où on enregistre le podcast, il y a les deux tomes qui sont sortis, je les ai lus. Le troisième arrive plus tard dans l'année, faudra tout relire d'un coup, parce que le commentaire que je peux faire là comme ça immédiatement, alors c'est très très dense. C'est Snyder qui tourne le bouton de la Snyderry au maximum.
Ah bah ça.
Donc d'office, si vous êtes allergique au style de Snyder, si vous êtes allergique à son envie de contrôle et son envie de grandiloquence, si on peut parler
comme ça. Oui, on peut dire ça, oui.
N'y allez pas, déjà. Deuxièmement, si vous n'avez pas lu, si vous n'avez pas un peu de... Alors, j'ai assez peu de culture d'ici. J'ai lu les grands événements, mais j'ai pas de culture, détaillée. Ça manque beaucoup. Donc déjà, moi, j'ai cette petite tare-là, mais j'ai lu beaucoup de Batman, alors en vieux fanboy du personnage, donc j'ai réussi à me dépatouiller. Si, malheureusement, vous n'avez lu aucun event d'ici, ni de grandes histoires de Batman, et notamment, le run de Grant Morrison, et oui. Deux, le run de Snyder New 52, alors vous pouvez y aller, parce que ça va sans doute vous donner envie de vous plonger dans tout ce qui s'est fait avant, mais ça va être très laborieux pour essayer de de suivre le fil et de quoi Snyder part, et deux, pour essayer de choper les immenses quantités de références que l'auteur place. C'est assez honnêtement indigeste, mais c'est relativement jouissif, parce que c'est assez rare aujourd'hui d'avoir, alors ça me rappelle un peu ce que faisait Hickman dans un tout autre style, mais cette idée d'event massif référencé qui s'appuie sur une quantité gigantesque de socles pour essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Voilà. Autre commentaire avant d'essayer de détailler un petit peu, alors je vais être très incomplet je pense, mais avant tout, alors certes on est sur Comic Stories, blablabla, mais je vous conseille quand même les deux dossiers qu'avait écrit Comics Blog à l'époque, des deux sorties des deux one-shots, puisque Metal en fait commence par deux one-shots introductifs, Batman The Casting et Batman The Forge, alors ou l'inverse, dans l'ordre de lecture.
Je ne sais plus.
Et donc ils étaient revenus, la rédaction était revenue en détail sur ces numéros, et notamment essayer de
dénicher les références.
De dénicher les références et d'expliquer en quoi elles s'inséraient dans le récit. Donc je vous conseille d'aller lire attentivement ces deux dossiers pour vraiment avoir une lecture la plus fluide possible. Alors Batman Metal, si on rentre un peu dans le sujet, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est Scott Snyder qui décide, si c'était pas assez évident avant, de recentrer une partie de l'histoire de DC autour du mythe, avec un grand M, de Batman. Le mythe de Batman, il avait été largement remanié par Morrison, qui, lorsque Batman est envoyé par la sanction Omega dans son passé, on apprend que c'est en fait un Bruce Wayne du passé qui s'est lui-même plus ou moins construit. Alors, je sais pas si c'est très clair, mais c'était tout un délire historico-continuité, très ambitieux et assez nébuleux, mais néanmoins très innovant. Donc Snyder, lui, à côté de ça, Morrison, je me perds déjà, avait émis l'hypothèse que Barbatos, qui est donc un démon, une entité démoniaque mentionnée pour la première fois par Peter Milligan il y a des années, avait émis l'hypothèse que Barbatos était un plus ou moins un suppôt d'Apocalypse qui pourchassait Batman à travers le temps. Donc ça, c'était ce sur quoi Morrison avait travaillé. Snyder, il part de ça, sauf qu'il dit que lorsque Batman est envoyé dans le passé par l'ascension Omega, il y a tout ce délire de tribu, donc à savoir la tribu de l'oiseau, de l'ours et du loup, plus la tribu de la chauve-souris qui fait scission, et donc on se retrouve avec une quatrième tribu préhistorique. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que, un, je vais m'y perdre, et deux, vaut mieux le lire. On apprend en fait que c'est Barbatos qui a lui-même modifié le mythe du Batman. Donc c'est très alambiqué et c'est à la fois ambitieux. Et autour de ça, en fait, Snyder, il va introduire le concept de multivers noir ou dark multivers en VO, qui est donc un univers, une sorte d'univers négatif miroir, qui est lui aussi un dérivé du, un contre-écrit de ce qu'avait proposé Morrison dans son Multiversity. Donc là aussi, si, alors j'avais craqué pour la version VO de Multiversity, ça m'a bien aidé parce que ça permet un petit peu de cadrer tous ces délires multiversels autour de Metal. Donc, voilà, il y a énormément de richesse dans, dans la dernière proposition de Snyder, mais c'est assez génial. Et donc, ce Dark Multivers est en fait plus ou moins le lieu de vie de Barbatos, qui a mandaté des Dark Knights, donc des chevaliers noirs au sens premier du terme, qui sont des versions alternatives et totalement corrompues de Batman. Et là où Snyder fait très fort, c'est que ce sont des versions de Batman sur lesquelles Barbatos ne serait pas intervenu. Et donc, c'est son discours lors de la conclusion du tome 2. Pareil, la review est pas non plus linéaire, c'est-à-dire je pars pas du tome 1 et puis je parle du tome 2. Le tome 2 se conclut sur le one-shot Batman Lost, qui est une sorte de numéro de pause entre la mini-série classique, où le numéro est extrêmement... Comment dire ça ? Il est très agréable à lire, puisque c'est un numéro où l'auteur va s'adresser à nous, lecteurs, au travers de toute l'histoire de Batman. Mmh. Et en fait, on apprend que si Batman est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que Barbatos a modifié son histoire point par point pour en faire son messager ultime et pour qu'il puisse envahir le multivers classique, entre guillemets, le multivers de la lumière. Donc, Dark Knight Metal, c'est ça. C'est l'invasion des 52 terres d'ici par des chevaliers noirs qui sont des versions de Batman corrompus, qui sont plus ou moins... on associe un membre de la Justice League au concept de Batman. Donc on va avoir un Batman Flash corrompu, un Batman Wonder Woman, et ainsi de suite. Ces différents personnages qui sont au nombre de, il me semble, 7.
Ah, 6 ou 7, je sais plus.
6 ou 7, je vais te dire ça tout de suite.
Aquaman, Flash, Green Lantern, Wonder Woman, Superman, il y a peut-être un cyborg.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ils sont 7. Donc, il y a Aquaman, qui est une version, là, cette fois, féminine de Bruce Wayne, donc qui s'appelle Bryce Wayne. Bon, on passera sur la subtilité. On a un Batman Doomsday pour Superman, un Batman Cyborg, un Batman Joker, donc le Batman qui rit.
Ah, c'est celui-là, j'avais oublié.
Le Batman Wonder Woman, Flash et Green Lantern. Donc, à chaque fois, ils ont des surnoms ou des... qui sont assez bien trouvés. Donc, c'est 7... qui sont globalement des chevaliers de l'apocalypse, hein, si on fait très simple, ont des designs vraiment... on est dans du grim and gritty total. C'est assez réussi. Par contre, quand on se penche sur leurs différents... Puisque chaque aliénation du personnage a son one-shot dédié, donc c'est globalement la grosse partie du tome 2, on se rend compte que le schéma narratif est le même, puisqu'on se rend compte de pourquoi le Bruce Wayne en est arrivé à de telles extrémités. Le Batman Kiri, qui est plus ou moins le lieutenant de Barbatos, intervient, le convainc de se joindre à lui pour envahir le multivers de la lumière. Donc, sur ce schéma narratif-là, certains sont mieux réussis que d'autres, forcément. Certains sont là aussi plus jolis que d'autres, puisqu'on a là pareil une palanquée d'artistes différents. C'est globalement très solide graphiquement. On sent que tout le monde s'est investi sur ce truc là. Mention spéciale au Batman Kiri, qui est forcément la création dont Snyder est le plus fier. Donc c'est la version plus ou moins mélangé du Batman et du Joker, puisqu'on a toujours eu dans l'histoire de Batman et de sa relation avec le Joker que l'un est le reflet de l'autre. Bah là, l'auteur va beaucoup plus loin puisqu'il les mélange. Donc c'est vrai que ce personnage-là est très réussi dans son design, puisqu'on est entre... Alors, pour les amateurs de comics, on est sur les Judge Death, donc la version, pareil, aliénée du Judge Dredd. Ou pour les autres, si c'est plus parlant, on est sur la bouche de Sauron. Je sais pas si ça parle, mais au moins, c'est moi, ça m'est très évident. Donc, dans la mini principale, forcément, on va suivre toutes les mésaventures des héros lumineux pour lutter face à l'invasion de Barbatos. Donc ça va passer par une enquête de Batman qui est confronté là à quelque chose qui est beaucoup beaucoup trop gros pour lui, qui est même beaucoup trop gros par rapport à toute la quantité de héros d'ici, puisqu'on a finalement tout l'univers qui est mêlé à ça. D'ailleurs, à l'issue des deux tomes, j'ai aucune idée de comment ils vont pouvoir se sortir de ça, parce que ça paraît, enfin c'est encore plus désemparé que Secret Wars, qui était déjà totalement massif comme event. Là, on est encore un cran au-dessus de ça. Moi, j'ai trouvé ça super. J'ai vraiment trouvé ça super. Alors, c'est cafouillis, c'est brouillon, mais c'est tellement jouissif que, honnêtement, ça mérite au moins la lecture du tome 1 pour se rendre compte, vraiment pour se rendre compte de ce qu'est Batman. puisque Snyder est très fort, puisqu'en plus de mêler ça à tout ce qu'a fait Morrison, alors on peut voir ça comme une copie ou comme un hommage. Moi, je préfère voir ça vraiment comme une continuité, c'est-à-dire qu'il se réapproprie le travail de Morrison pour en proposer sa propre version. Mais le bougre, il est malin, puisqu'il va y mêler tout son travail des New 52. Puisque pourquoi Batman Metal ? Puisqu'on va se rendre compte que l'invasion et l'arrivée intradimensionnelle de Barbatos est liée à 5 métaux que Snyder avait gentiment dissimulé lors de son run. Alors, quand je dis ça, c'est un peu ironique, puisque je pense que l'idée est rétroactive. À mon avis...
Bien sûr, genre il a prévu tout ça depuis le début, depuis la cour des hiboux, mais oui.
On va dire qu'on y croit, parce que ça fait le projet massif, mais personne n'est dupe. C'est-à-dire qu'en fait, lors de la cour des hiboux, Batman boit dans l'espèce de puits souterrain des hiboux. Donc là, on va se rendre compte qu'il va être mis en contact avec l'électrum, qui était le métal qui servait à la conservation, puis à la résurrection des ergots. Ensuite, il va être mis en contact avec le dionésium, lors de Endgame.
Ouais.
On a ensuite le Prometheum, qui est le métal qui lui sert à sa machine à souvenir pour sauvegarder le Batman tous les 27 ans. Enfin, c'était tout aussi con, mais tout aussi génial. On a ensuite le Enhanced Metal, donc qui est lui plutôt lié à tout l'historique de Carter Hall et de Hawkman. Petit tour de force de Snyder, puisqu'il fait de ce Enhanced Metal en fait une sorte de carte géologique de différents artefacts d'ici. Donc on va apprendre que là, par exemple, l'épée de Wonder Woman est en Enhanced Metal, le casque de Doctor's Fate, le trident d'Aquaman, enfin voilà, il essaye un petit peu de mêler tout ça à une sorte de géologie universelle. Bon, pourquoi pas. Et ensuite on a forcément le Batmanium, qui est le dernier métal en date, et puisque Batman a été mis en contact avec tous ces métaux une fois dans sa carrière, bah c'est ce qui permet en fait de faire le relais pour l'arrivée de Barbatos dans la Terre zéro. Quoi. Mmh. Donc ma review est très confuse, la lecture est elle aussi très confuse, mais ce serait, je pense, dommage au moins de se passer du tome 1, histoire de prendre un peu, de se rendre compte de l'ampleur de la mini-série. Voilà. Moi, pour moi, Dark Knight Metal, c'est la grosse sortie de fin d'année chez Urban. Je sais qu'ils ont, enfin, d'ailleurs, ils ont beaucoup de chance parce qu'il y a aussi le Batman White Knight qui sort. Donc, d'un point de vue de Bruce Wayne et Chevalier Noir, ils sont assurés cette année. Mais voilà. Moi, Scott Snyder, je pense que vous avez compris depuis maintenant que je suis sur le site, mais j'adhère. Docteur Manhattan. Non, Docteur Manhattan, je comprends sans approuver ni condamner, mais je comprends. J'adore.
Ok. Pourquoi pas. Moi, pour info, j'avais tenté un métal. Hein. J'ai lu à peu près l'équivalent du premier tome et puis quelques one-shots, celui consacré à Flash, à Green Lantern, à Aquaman aussi. Je crois que je les ai lus, ces trois-là. Les one shots j'ai vite laissé tomber quand j'ai vu que qu'on allait se taper les sept mêmes, hein, avec juste le visage qui change. Ça m'avait saoulé. Il y avait des idées intéressantes pourtant dans ces one shots, mais au final la même construction, et c'est un peu redondant.
C'est dommage, c'est vraiment dommage. Par contre, ça donne à la fois, c'est dommage puisque c'est très redondant, mais ça donne comme une sorte de cohésion dans leur destin. Et
oui. Après, il y a quelques petits trucs que j'avais appréciés, notamment cette fameuse carte du multivers du Multiversity de Morrison, et l'idée de dire que le Dark Multiverse, en fait, il faut juste imaginer que la carte elle est sur un papier et que le Dark Multiverse c'est juste derrière en fait.
Ouais.
C'est tout con, mais c'est pas une idée dégueulasse. Il y a quelques petites idées comme ça qui méritent malgré tout le coup d'œil, mais derrière tout est passé au mixeur Snyder.
Juste pour revenir sur le Batman Lost, qui est alors honnêtement, ce tome 2, comme tu dis, est malheureusement pas très intéressant, puisqu'en grande majorité, il est constitué des différents one-shots liés au Dark Knights. Donc ça représente quand même 7 numéros sur un tome qui doit faire autour de 200 pages. Donc ça, malheureusement, ça parasite un petit peu même si c'est agréable de découvrir un peu ces personnages. Mais au final, on se rend vite compte qu'il n'y a pas tellement d'intérêt. Par contre, le Batman Lost, qui est le numéro de conclusion de ce tome 2, est lui une petite pépite, puisqu'au-delà de nous un petit peu nous retravailler l'historique de Batman, et notamment cette scène de fin où Batman est confronté à la vérité de Barbatos, qui lui explose en pleine vue que si tu es ce que t'es, c'est alors grâce ou à cause de moi, en fonction de comment on s'aligne par rapport à ça, et voir Batman craquer à la fin en lui disant mais c'est pas possible, je pensais être maître de ma destinée et ça n'a jamais été le cas, c'est vraiment très très fort. Il y a tout un commentaire méta sur l'idée de narration et de continuité. Puisqu'en fait, le numéro est construit de la manière suivante. On a un Batman, enfin un Bruce Wayne, pardon, vieillissant, qui se voit raconter une histoire à sa petite fille. Donc, sa petite fille va dans sa bibliothèque, donc au manoir Wayne, et on la voit choisir dans des rayonnages de bibliothèque une histoire que son histoire favorite que son grand-père va lui raconter. Donc c'est très marrant puisque ça veut dire que Bruce Wayne a mis sur papier ses histoires, et ces histoires sont en fait les titres de grands arcs du Batman. C'est-à-dire qu'on va avoir un long Halloween, Silence, qu'est-ce qu'on a d'autre, on a la cour des hiboux, forcément la tour de Babel. Donc c'est assez génial, surtout que vu que c'est un Bruce Wayne vieillissant, on peut imaginer qu'il a la mémoire qui flanche un petit peu. C'est-à-dire que son récit va lui-même se déformer par rapport à ses écrits. Et là, le commentaire méta, il est évident sur les arcs historiques réels qu'on lit, qui sont pas forcément raccord les uns par rapport aux autres. Ça nous est déjà tous arrivé. Quand un auteur reprend un personnage, bah, c'est pas forcément raccord à ce que l'auteur précédent avait fait. Pourtant, c'est dans une continuité linéaire, la plupart du temps. Donc vraiment, ce Batman Lost est une petite pépite, et Snyder fait vraiment du Morrison. Il en oublie un petit peu ses délires de méca et autres fantasmagories un petit peu idiotes pour quelque chose de beaucoup plus réfléchi. Et vraiment, j'insiste sur ce Batman Lost. Alors, c'est dommage d'acheter le tome exprès. Maintenant, bon, le lire comme ça, indépendamment de tout ce qu'il y a avant, ça n'a pas réellement d'intérêt. Gros coup de cœur sur ce Batman Lost 1. Ça fait beaucoup de coup de cœur Batman en ce moment, entre le numéro 19 de Tom King, ce numéro Batman Lost. Il y avait eu un All-Star aussi qui était très bien. C'est une bonne période pour les fans de Batman.
T'inquiète, attends de lire le 50. Alors, ouais. On va donc continuer.
Putain, tu teases.
Ouais, un peu, ouais. J'ai hâte que tu le lises, et je pense que du coup, on ne parlera de ce numéro que quand ça sortira en VF, même si ça m'emmerde d'attendre un an. Mais il y a beaucoup de choses à dire autour de tout ça.
Ok.
Tu parlais de Lost, et du coup, ça me fait une petite transition, bah, toujours pour la VO, puisque dans Lost, quand la petite fille va chercher la bibliothèque, il y a un bouquin qui s'appelle Lost Justice.
Exact.
Lost Justice, qui est la mini-série en 4 qui était proposée au mois de juin chez DC, la raison d'un épisode par semaine. Qui traite directement d'un événement qui a lieu dans Batman Metal, je pense dans le tome 3, donc je ne vais pas le spoiler. Et du coup, ben, c'est tous les héros de DC, de l'univers, qui vont être confrontés à un événement. Et du coup, ben, c'est tout ça la sauce. Donc imaginez ce que Snyder est capable de faire au niveau de pousser le curseur quand il a juste Batman dans les mains. Maintenant, imaginez quand il a toute la Justice League et même plus.
J'en frémis d'avance.
Ah bah ça, j'en doute pas. Moi, j'en ai frémi aussi, hein, mais pas dans le même sens. C'est trop. C'est juste trop pour moi. Je ne peux pas. L'histoire démarre par comment s'appelle-t-il déjà, Brainiac, qui vient chercher, qui vient capturer les héros de la Terre, qui les répartit en 4 équipes. Sa planète est en train de mourir. Kolu est menacée de destruction. Je ne vous dis pas par qui, je ne vous dis pas comment ni par quoi, mais en tout cas, il faut que les héros soient répartis en 4 équipes de manière complètement random. Je pense que Snyder et compagnie ont mis tous les noms des personnages d'ici dans un chapeau. Ils ont tiré, ils ont fait 4 équipes et hop, ils leur ont donné des noms. Et très bien. Et ils nous font croire que tout ça a une cohérence et que tout a été très savamment réfléchi par Brainiac et que c'est cette composition-là des équipes qui fait que ça peut marcher. C'est avec une autre composition, c'est pas possible. Oui. À partir du moment où tu mets Harley Quinn dans la team Sagesse, bon. tu as des doutes sur la sanité mentale du personnage. Bon voilà, du coup c'est trop, c'est over the top. Je l'ai lu jusqu'au bout parce que j'avais commencé et que bon bah quand on a lu deux numéros, il en reste plus que deux, alors on finit, on va voir. Mais c'est pas très encourageant pour la Justice League. J'ai reçu le numéro 1 parce que j'ai commandé une couverture spéciale. Je vais le lire parce que je l'ai, mais je sais que ça ne me plaira pas et je sais que ça te plaira.
Oui. Voilà. Ça me plaira d'avance. Par contre, je prends un peu d'avance sur la review écrite du Batman Rebirth. Alors ça doit être 13 ou 14. où il y a toujours voilà. Alors ça, on y reviendra. Je vais pas en parler. Par contre, on a le All-Star Batman 12 et j'ai été déçu parce que Snyder s'était calmé sur ce second arc de All-Star Batman avec quelque chose de moins moins idiot finalement. Et là, il met tout ça à la poubelle et ça y est, on est reparti. Quoi.
Oui.
Donc là, c'est l'un des rares numéros où Snyder me déçoit, c'est-à-dire qu'il avait fait l'effort de.
Bah c'est Tom King.
Non, le All-Star Batman, c'est Snyder.
Ah, je croyais que oui, j'étais encore sur le.
Non,
la guerre des blagues et des. Je sais pas comment.
Alors, ça, je vais pas en parler, j'en parlerai à l'écrit, mais le All-Star Batman qui s'attarde, je prends un peu d'avance sur la review écrite, mais oui. Qui s'attarde sur un arc en parallèle, enfin une sorte d'analepse entre Alfred et Batman. Avec un sous-thème de la piraterie, donc qui est une super idée, enfin qui est encore une fois assez originale et qui est je n'en démords pas, qui est une caractéristique de Snyder. Il a le talent pour nous faire de l'originalité au moins au début. Mais là, voilà, dès le numéro 12, il fout tout ça à la poubelle et il repart dans son écriture du superflu et du comment dire, de la gradation, quoi. J'en mets une couche à chaque fois en plus, et malheureusement, c'était moins le cas sur les premiers épisodes de ce second arc. Et là, il en oublie son travail précédent, et c'est dommage.
Ouais. Donc bon, bah voilà, vous ferez votre avis dans les mois qui viennent sur notre justice et compagnie, et puis surtout ce chemin qui mène au Batman 50. Voilà, ça vous verrez par vous-même. Petite chose que j'avais envie de mentionner, puisque Panini n'en parle pas, vous avez toujours, la plupart vous les avez déjà parce que le mot s'est très très vite passé sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et compagnie, cette fameuse gamme de 8 bouquins là qui sont disponibles en ce moment uniquement chez Carrefour à 1,90€ pour des bouquins de 240 pages qui reprennent grosso modo les contenus des anthologies Je suis un truc ou Nous sommes quelque chose. Donc on a des tomes sur Spider-Man, les Avengers, les X-Men, Deadpool, Black Panther, Iron Man, les Gardiens de la Galaxie, Wolverine, donc 8 tomes de 240 pages chacun, qui contiennent entre 4 et 7 récits complets sur les personnages ou les équipes que je viens de citer. À la mode, Je suis Spider-Man, par exemple. Voilà, c'est des récits qui sont tirés de cette anthologie-là. Et le contenu rédactionnel qu'on trouve au début et à la fin, ne serait-ce que même au niveau de la mise en page et de l'aspect visuel, ça fait quand même furieusement penser aussi à ces anthologies. Donc, beaucoup, puisque beaucoup de com et beaucoup commercial de la part de Panini, puisque du coup, pour 1,90€, des bouquins de 240 pages avec un papier qui est pas si dégueulasse que ça, ouais, bien joué, quoi. Ils recyclent leur contenu éditorial des anthologies. Ils proposent 4 ou 5 récits, parfois même 7, je crois, pour les gardiens, il y en a 7, qui sont assez emblématiques des personnages. Voilà, ça coûte 1,90€ le tome. Pour 15,20€, je crois, vous avez les 8 tomes, la collection complète. Donc même pas pour le prix d'un format 100% avec l'augmentation de tarifs qui vient d'avoir lieu en juillet. Bah, même pas pour un tome en 100%, vous en avez 8 de 240 pages qui sont des anthologies sur les personnages majeurs. Bien joué.
Par contre, est-ce que ça a de l'intérêt si on connaît ?
Bon, non, pas spécialement. Ça n'a pas d'intérêt non plus si vous avez les anthologies.
Ouais, ok. D'accord.
Ouais. Mais après, oui, ça permet quand même de retrouver des histoires sympas. Alors, pour des lecteurs occasionnels, pour des éventuels nouveaux lecteurs, parce que oui, effectivement, on entre dans son supermarché, on voit un énorme présentoir avec tous ces bouquins, 1,90€. Bah ouais, forcément, on en prend un, on en prend deux. Souvent, on les prend tous, parce que ça fait une lecture pour la plage, qu'on n'aura pas trop de scrupules à transporter dans le sac à dos, dans la valise, parce que pour 1,90€, c'est pas grave, si on l'abîme un peu. Et non, c'est une bonne opération, franchement. Jusqu'au 13 août, ils sont à 1,90€, après, ils passent à 4,90€, et je pense que Carrefour perdra l'exclusivité, puisqu'ils sont déjà en précommande ou je ne sais quoi sur Amazon, enfin ils sont déjà référencés sur Amazon aussi au prix de 4,90€, donc je pense qu'au 13 août on pourra les trouver dans plus d'endroits que Carrefour. En tout cas, belle opération, belle exclu pour les vacances, voilà quoi, ou pour des enfants, voilà, vous ne voulez pas leur prêter vos bouquins parce qu'ils sont un peu trop précieux à vos yeux et trop chers surtout, voilà, 1,90€, et ils peuvent découvrir et kiffer sur des histoires un peu anciennes, etc., et puis après pleurer sur les nouveaux kiosques. Non, c'est pas mal. Belle opération, et ouais, ça méritait quand même qu'on en parle. Panini ne le fait pas, je ne comprends pas, je ne sais toujours pas pourquoi ils n'ont pas communiqué au moins une fois, même une petite photo sur la page Facebook. Enfin, franchement, ça coûte rien, et voilà. Je comprends pas. Voilà. Bon, bref, tant pis. Au moins, on en aura dit deux mots. Voilà, est-ce que toi, tu avais d'autres choses ?
Là en librairie non. Il y a le Punisher The Platoon qui va alors arriver sur le site, je sais pas trop quand, ça dépendra du temps que je.
D'accord.
Mais j'ai The Platoon qui arrive, c'est très très bien. C'est
Okay.
très 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 bien. C'est du très bon Punisher par Garth Ennis et un Goran Parlov au sommet sur un fond de d'offensive du Tet en 68. Donc pendant la guerre du Vietnam. Donc c'est super. Et ensuite, je pense que je vais basculer sur du Valiant.
D'accord. Donc tout ça, c'est à venir en écrit sur le site, du coup.
Je pense.
Ok. Pour ma part, je vais tenter. Enfin, je vais même pas tenter. Je vais le faire. Je vais vous mettre le tome 1 de Archie chez Glénat, parce que ça y est, Archie est arrivé en VF et vous savez mon attachement à cet univers. Donc voilà, je vous parlerai quand même du tome 1 par Mark Waid et Fiona Staples quand même. Rien que ces deux noms-là, ça mérite qu'on en parle et que je donne au moins un petit avis sur tout ça. Spoiler, c'est génial. Voilà. Donc je vous prépare ça pour dans les jours qui viennent, on va dire, profiter. On va laisser passer ce week-end de fête et de sport, puisque bon.
Ah, attends.
Hein, bah, de fête nationale.
De fête nationale, oui.
Ça c'est assumé.
Voilà,
c'est quand même important. Ah, c'est pas pour ça les drapeaux aux fenêtres?
Je pense
que c'est la fête nationale. Ah merde.
Je
croyais que c'était comme le 4 juillet aux États-Unis. Moi, je croyais que les gens devenaient.
Oh, non.
Ah non. Ah bon, bah d'accord. Bon bah tant pis. Alors j'ai dû rater un truc. Je ne fais peut-être pas partie de ces 20 millions de personnes. Je ne sais pas. Mais bon, je regarderai comme tout le monde cette finale.
Après, bah oui.
Évidemment. Parce que quand même, c'est important, paraît-il.
Voilà.
Petite parenthèse faite. Et tes prochaines lectures, tiens, on a commencé par prendre de tes nouvelles par rapport à tes dernières lectures et aux épisodes précédents. Quelles seront tes prochaines lectures? Tu as quoi dans ta pile?
Alors, je vais rattraper mon retard sur Daredevil par Charles Soule, parce que Daredevil.
Merde.
Pas parce que Charles Soule, mais parce que Daredevil.
Bah, Charles Soule.
Oui, ouais, c'est assez évident. Je vais me faire le tome 2 de Seven to Eternity, parce que Jérôme Opeña.
Et parce que Rick Remender.
Et parce que Rick Remender, je l'avais oublié.
Noir et blanc ou couleur?
Couleur.
D'accord. Couleur.
Et je vais rattraper mon. Enfin, je vais lire mon tome 7 de Black Science, toujours du Rick Remender.
Ok.
Parce que Rick Remender est un génie, qui se répète un peu. Mais
parce que Black Science, quand même, c'est pas dégueulasse.
Exactement.
Ouais, on va quand même dire ça. Ok, bah c'est pas mal. Et t'as le temps de mettre des choses hors comics dans cette pile?
Oui, tout à fait. Je vais sans doute aller me faire avoir encore pour Ant-Man et la Guêpe, sans doute. Malheureusement, parce que je pense pas que ce soit génial. Je suis sur un très bon livre qui est Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski.
Ah bah j'ai alors du coup bah je parle beaucoup d'Instagram ce soir, mais j'ai vu plusieurs personnes en parler et dire à quel point c'est génial.
Ah c'est très 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 bon.
Donc c'est du roman.
C'est du roman, mais c'est du roman. Enfin c'est écrit avec une plume. C'est vraiment incroyable. C'est un peu le pendant fantasy qu'est Damasio pour la SF en France. Quelque
okay.
chose pour donner un ordre d'idée, mais c'est vraiment super bien écrit. Franchement, c'est vraiment l'utilisation de la langue française dans tout ce qu'elle a de précis.
Ok. Parce que c'est donc du coup français. Parce que
moi, c'est un auteur français, ouais.
Très bien. J'ai juste vu passer tout ça plusieurs fois et des gens qui en font des éloges, mais je me suis pas plus intéressé au truc. Bon, bah écoute, ça fait un avis de plus et pourquoi pas le rajouter.
Je te le conseille.
Ok. Et bah écoute, ça fait pas mal tout ça. De mon côté, bah j'ai des gros morceaux. Je me lance dans du lourd. Je sais même pas pourquoi. Qu'est-ce qui m'a pris en dehors de tous les singles hein, que je lis chaque semaine. Hein, il y a quand même une belle période en ce moment. J'ai pris la première intégrale de Strangers in Paradise.
Ouf.
Parce que je l'ai trouvé en occasion, franchement, voilà, pour le prix d'un 100% Panini.
Ah oui.
Bon bah j'ai pris.
Oui, c'est sûr.
Parce que j'entends tellement de pareil, c'est un truc dont j'entends tellement de belles critiques depuis.
Ça m'attire pas du tout.
Depuis des années, pareil. Sur le papier, c'est pas la chose que j'irai lire. Franchement, c'est pas le genre d'histoire que j'irai lire, etc. Mais c'est aussi le cas de beaucoup de personnes qui en font des éloges aujourd'hui. Donc je me dis que peut-être je vais me laisser avoir aussi. Et puis pour le prix d'un 100% Panini, j'ai un bouquin épais comme 400% Panini. Bon, bah je lirai ça et puis au pire, je le revendrai. Et puis voilà. Donc il y a ça. Je me prends les rééditions iComics de Lock and Key. Même si j'ai déjà lu les tomes actuellement sortis. Je crois qu'il m'en manque que un. parce que c'est absolument fabuleux et que je ne les
ça
avais
aussi.
Je
À chaque fois que enfin, à chaque fois qu'il y a un article qui sort sur ce truc-là, c'est génial, j'ai jamais
Non, c'est grand, c'est grand, c'est vraiment un des grands comics de ces dernières décennies, dernières années surtout. Ah non, c'est très très grand, Locke & Key. Donc voilà, j'ai quand même deux monstres là qui m'attendent, Strangers in Paradise et Locke & Key, donc ça me promet un été
oui,
plutôt 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 sympa. Et puis comme si ça ne suffisait pas, j'ai quelques mangas, voilà, j'ai enfin commencé Hunter x Hunter, parmi les séries un peu cultes qui soi-disant il faut avoir lu, voilà. Et puis parmi les nouveautés, du Last Pretender, du Promised Neverland, des choses comme ça, enfin voilà. Je me suis même laissé avoir par un titre qui s'appelle Reine d'Égypte, qui raconte l'histoire
Ah oui.
de la première femme que l'histoire a retenue. Voilà. Mais qui est pas mal. En plus, historiquement, c'est vachement bien fait. Donc, ok. Donc, ouais, je suis sombré récemment dans Le Château des Animaux, en format journal sorti par Casterman. Il y a Le Château des Étoiles qui existe comme ça.
Ça, c'est très bon, ça, par contre.
Format journal qui est génial, que j'ai aussi. Et Casterman a lancé Le Château des Animaux, et c'est énormissime. Il y a un numéro de sortie pour le moment. Le deuxième a déjà un mois de retard. Je suis dégoûté, mais franchement, c'est très bon. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup tout ça.
Je me permets une dernière remarque, mais d'ici début septembre, je vais revenir sur un autre média qui me passionne, qui est le jeu vidéo, puisqu'en le 9 septembre sort Spider-Man d'Insomniac Games. Donc,
le tout petit jeu dont personne n'a entendu parler.
Voilà, exactement. Donc ce sera l'occasion de... puisque je suis gamer, alors malheureusement ou pas, mais...
Bah, c'est une maladie de plus après les comics et les livres.
Exactement, exactement. Mais voilà, on reviendra sur le Spider-Man d'Insomniac, le temps de le retourner un petit peu. J'espère qu'il lavera l'affront qu'était Arkham Knight, qui est l'une des immenses déceptions de ces dernières années, à laquelle je ne me suis toujours pas remis. Mais voilà, Spider-Man le 9 septembre.
D'accord, d'accord, d'accord. Et puis du côté de la VO, qu'est-ce que je guette? Le début du Spider-Man de Bendis, quand même.
Spider-Man de Bendis?
Superman, oh pardon. Ah oui, ah oui, bah c'est tellement différent de ce qu'il fait d'habitude, de ce qu'il faisait chez Marvel, que j'arrive même plus à faire la différence. Comment?
Ça fait envie.
Non, mais j'ai fini sans Man of Steel et comme je t'ai dit dans les conversations privées, je suis à la fois intrigué et intrigué et désespéré.
Ouais, c'est ça.
Par cette mini-série.
Bah, c'est Bendis, hein.
Ouais, mais vraiment désespéré. Mais vraiment intrigué en même temps. Donc c'est bizarre. C'est bizarre. Donc voilà, je guette ça et puis je guette aussi le Doctor Strange de Donny Cates dont les TP arrivent prochainement chez moi.
D'accord.
Oui, parce que Donny Cates, là, maintenant, c'est bon.
Ouais, c'est un peu le Jeff Lemire d'il y a quelques années.
J'ai envie de lire un peu tout ce qu'il a fait cette année, parce qu'il n'y a rien de mauvais, apparemment. Donc.
T'as lu le God Country?
Non, même pas.
Okay.
Non, je me concentre sur son travail Marvel, et puis après, je vais aller piocher dans les indés, avec notamment Baby Teeth, qui va sortir chez Snorgleu à la rentrée. C'est de lui aussi, je crois. Y a pas mal de petits projets un peu obscurs.
Il avait fait un truc chez Dark Horse, avec le mec d'Extremity. Daniel Warren Johnson.
Ouais, peut-être.
Je crois que ça s'appelait Ghost Town.
Oui. Et voilà, j'ai mis de côté un peu tous ces noms-là, et puis une fois que j'aurai fini que j'aurai rattrapé ses travaux chez Marvel, j'irai jeter un petit coup d'œil du côté de ses indés.
Ça, faut que je lise.
Et je pense que d'ici la fin de cette année 2018, on devrait parler un petit peu de toutes ces œuvres-là de ce monsieur. Peut-être
pourra faire l'objet d'un édito, tiens, si on arrive à multiplier les lectures de Donny Cates.
Pourquoi pas, d'un édito, d'une petite semaine à thème, on ne sait pas. Pourquoi pas mettre un peu en avant cette nouvelle star montante, voilà, en espérant que Marvel ne lui brûle pas les ailes comme ça a été fait avec trop de scénaristes.
Ouais.
Et bien voilà, on arrive au terme de cette émission. On se retrouve dans l'été pour discuter un petit peu de tout ce dont on vient vous parler dans nos choses à venir. Et puis d'autres choses, évidemment, sans doute un mot sur Ant-Man, puisque je vais aussi me laisser tenter, voilà, tout comme je dois aussi aller voir Les Indestructibles 2, et ça reste du super-héros, donc pourquoi pas en parler. Donc voilà, on se retrouve dans l'été, je pense début août, on se dirige un peu vers ça, selon les vacances et les disponibilités des uns et des autres, on verra.
Oui, on verra.
Parce que ce sera peut-être après le 15 août, on sait pas, en même temps on donne plus de date, puisqu'on n'arrive jamais à...
Non, oui, non. Mais c'est mieux comme ça.
Voilà. On reviendra dans l'été, sachez-le. C'est tout ce qu'on peut vous dire pour le moment. En tout cas, d'ici là, belle lecture, bonnes vacances à tout le monde, bon film pour ceux qui vont voir Ant-Man, et à très vite.
Pareillement.